Chapitre 5 La librairie Pigeonneau Exercis. En sortant de la chapelle provisoire de Saint-Martin, si on tournait à droite par la rue du même nom, on passait presque immédiatement devant la librairie catholique Pigeonneau Exercis. C'était un magasin d'assez grande importance, quoiqu'une bonne moitié de la longue devanture fut composée d'une étroite langue léchant le mur même de la chapelle et tout juste suffisante pour l'étalage. On pouvait se fournir chez Pigeonneau Exercis de tous les objets du culte, depuis les calices, ostensoirs, ciboires, jusqu'au modeste chapelet en bois taillé à 30 centimes. Cette maison offrait le plus grand choix d'ouvrages pieux et même romanesques, ceux-ci triés, bien entendu, avec le plus minutieux scrupule. Les familles y trouvaient le grand avantage de pouvoir puiser les yeux fermés dans une bibliothèque cependant très variée. Il est malaisé de faire soi-même son choix sans courir le risque de tomber sur des insanités qui coûtent aussi cher que les meilleurs livres et que l'on hésite quelquefois à brûler. Madame Pigeonneau était une femme si délicieuse que beaucoup fréquentaient sa maison pour le seul plaisir. Elle causait bien et affectait de n'être pas commerçante pour deux sous. Cependant, il était rare qu'on s'en allât de chez elle les mains vides. Témoin le marquis d'Aubrebis, dont l'impiété était notoire, qui venait là chaque matin se régaler de sa vue et qui amoncelait chez lui, paroissiens, médailles et statuettes de tous les saints. « C'est pour ma pauvre femme, disait-il, il faut flatter ses innocentes manies. » Et ces dames qui le taquinaient si fort sur son irreligion se faisaient un jeu de lui emplir les mains et les poches des 1000 articles du magasin Pigeonneau. On n'éprouvera jamais trop l'efficacité des images saintes. Leur présence chez vous, monsieur le marquis, vous vaudra une fin édifiante. » Une dame chevillée, qui craignait toujours que l'on plaisantât des choses de la religion, lança d'un ton pointu « On a vu des cas bien extraordinaires. » « Connaissez-vous celui de monsieur Dupont, surnommé le Saint-Homme de Tours ?» répliquait le marquis en jouant une conviction qui mettait chacun mal à l'aise. Monsieur Dupont avait l'habitude de jeter des médailles de Saint-Benoît dans les fondations ou autour des édifices dont il voulait éloigner Satan. Lorsqu'il s'agit d'obtenir le consentement des propriétaires pour les travaux destinés à découvrir les fondations de l'ancienne basilique, monsieur Dupont, fidèle à sa pieuse industrie, fut aperçu plusieurs fois, dit-on, priant dans les ténèbres et semant ses médailles dans les caves des maisons adjacentes aux ruines de l'antique église. « Mais parfaitement, monsieur, et le fait est si vrai qu'il est rapporté dans une brochure de monsieur le chanoine Beauséjour. Vous n'en irez pas en tout cas les résultats ?»« Certainement non, madame, et j'aurai même l'avantage de vous fournir ces résultats au complet. » On s'attendait à une des méchancetés de langue habituelles au marquis. « Ces maisons, dit-il, aussitôt délivrées de Satan, ouvrirent quasiment d'elles-mêmes leurs entrailles et présentèrent les débris sacrés qu'elles y recélaient. Elles furent achetées, au nombre de 27, par l'œuvre dite de Saint-Martin, qui se constitua alors en vue de la reconstruction d'une basilique. « Vous ne nous apprenez rien ?»« Pardon, peut-être ignorez-vous que, par acte passé devant Maître Sautereau, notaire en cette ville, rue de la Sellerie, le 19 juillet 1881, à savoir samedi dernier, le séquestre de la manse archiépiscopale a revendu les 27 maisons à la Société anonyme immobilière de Touraine, moyennant… » Il n'y eut qu'un bond. Toutes les personnes présentes ce lundi matin chez Pigeonneau Exercis se pressèrent autour du marquis d'Aubrebis, les unes avec des gestes de doute, d'autres de dénégation, d'autres de colère aveugle. Ce qu'il annonçait n'avait cependant rien de surprenant après le manifeste du sermon de l'abbé Janvier. Mais quelque averti que l'on soit des calamités, le cœur ne perd un secret espoir qu'en présence du fait accompli. Madame Pigeonneau était debout derrière une des tables de vente qui faisait le tour de la pièce carrée et où étaient étalées de superbes imitations de Jésus-Christ en maroquin, couchées chacune en son écrin de soie blanche. La jeune femme, appuyée sur les deux bras droit tendus, présentait en agréable saillie les formes pleines de sa poitrine serrées dans un jersey bleu marine. Elle dirigea ses yeux noirs sur le vieillard qui semblait s'être fait un malin plaisir à annoncer cette catastrophe. « Monsieur le marquis, » dit-elle, en s'oubliant de relever un peu trop sa lèvre ombrée sur la rangée inégale des dents qui était sa partie faible, « vous êtes ce matin un oiseau de bien mauvais augure. » Toutes ces dames la remercièrent d'un signe de tête parce qu'elle embrassait leur chagrin commun. « Le sort de mon magasin, » reprit Madame Pigeonneau, « est lié à celui de la chapelle. Si l'on nous met à la porte d'ici, où me conseillez-vous de le porter ? On ne peut cependant pas vendre des objets de dévotion dans la rue royale. » « En quelque endroit que vous fixiez votre saint commerce, ma bonne petite, nous vous suivrons, n'en doutez pas. »« Vous pourriez vendre autre chose, » opina le marquis. On lui tourna le dos, on l'invectiva, on s'emporta, on commenta la nouvelle avec chaleur et indignation. Peu à peu, l'entretien retomba au petit sujet des préoccupations habituelles. « Dans un temps comme le nôtre, il faut plus que jamais aider les personnes bien pensantes. » « Vous avez joliment raison, madame, et tenez, je me permets pour ma part de vous recommander l'épicier Duvigneau, rue du Commerce. Il a une petite femme très comme il faut et il vote bien. » « À propos, savez-vous que Rocher, le directeur des grands magasins de blanc, est franc-maçon ? » « Allons donc. » « Il assistait samedi au banquet du conseil municipal. » « Grand Dieu, c'est à ne plus savoir où prendre ses fournisseurs ? « Mais comment avez-vous appris cela ? Moi, j'y vais tous les jours dans cette maison de blanc. » « Je l'ai appris d'une source autorisée. C'est Mademoiselle Cloque, dont le propriétaire, comme vous savez... »« Ah ? Eh bien, tenez, vous ne me ferez jamais comprendre comment une aussi sainte fille persiste à demeurer dans un pareil bourbier. Figurez-vous que cette énergumène se promène dans son jardin, depuis les chaleurs, en gilet de flanelle, les bras nus. » Le fait est que ce n'est pas un spectacle pour une petite pensionnaire qui sort du couvent, car Mademoiselle Cloque va avoir sa nièce ces jours-ci. Et l'on dit même qu'elle l'aura longtemps. Ça, c'est méchant. Qu'est-ce qui vous prouve que le mariage... Le mariage ? Mais vous ne savez donc pas ce qui se passe ? En effet, est-ce que le jeune homme ne se bat pas en duel avec un journaliste ? Il s'agit bien de cela. L'affaire est arrangée. Il y a eu des explications. Il y en avait besoin, d'ailleurs, si tant est que l'on puisse s'expliquer dans un cas aussi... Que voulez-vous dire ? Comment ? Mais vous n'avez donc pas lu l'article de samedi soir ? Si ? Eh bien, la fin de l'article. Ah, si vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Ce n'est pas moi qui vous mettrai le doigt dessus, ce serait de la médisance. Que le comte de Grenaille aurait des intérêts dans les affaires de Saint-Martin ? Ce n'est pas moi qui vous le fais dire. Je me suis laissé compter qu'il vit un peu au crochet des bons juifs qui ont épousé son fils aîné. Chut ! Voilà Mademoiselle Cloque. Mademoiselle Cloque arrivait K1KA, flanquée de M. Houblon, l'organiste. Deux fois grande comme la vieille fille qui l'accompagnait, il la contraignait, par le feu de sa parole, à relever tout en l'air sa figure défaite par les récentes émotions. Il était sanglé dans une redingote de drap noir, malgré la chaleur, tandis qu'un léger chapeau de feutre mou se retroussait sur son front ruisselant. Il faisait des gestes désespérés et courbait et relevait tour à tour son échine, comme s'il eût éprouvé par instant la chute du ciel sur ses épaules et se fut redressé successivement par l'effort d'une résistance héroïque. Mademoiselle Cloque l'affectionnait et elle disait de lui qu'il avait l'âme la mieux trempée pour la lutte. Elle lui avait inspiré le culte de Chateaubriand. Il avait lu une partie de ses œuvres et tiré de cette noble admiration des avantages dans le monde. L'entrée des deux amis au magasin Pigeonneau ranima les conversations. Ils apportaient avec eux la force communicative de leur indignation, raffermie par la nouvelle de la vente des maisons qu'ils venaient de puiser toute fraîche au guichet du frère Gédéon. « Alors, dit Madame Pigeonneau Exercice, il ne me reste plus qu'à faire mes boutiques. »« Madame, dit Monsieur Houblon, je ne jurerai pas qu'avant 8 jours on ne vous signifiât congé. La maison que vous occupez, pour le bien de la religion et pour notre agrément à tous, cette maison, dis-je, est au nombre des 4 immeubles. que le ciel m'entende, je dis bien, des 4 immeubles sur 27 qu'est conservée la manse. C'est sur ce sol que s'élèvera la misérable masure, la bicoque, le chalet, que les temps modernes, oh bien modernes, se proposent d'élever à la gloire de Saint-Martin. Le mot de chalet, véritable trouvaille, fut saisi, relancé. Il revint, bondit à nouveau. Chacun le voulut prononcer à son tour. On unit à l'épithète jaillit la veille de la colère de Mademoiselle Cloque, et l'église future fut dès lors stigmatisée du nom de chalet républicain. « mon Dieu !» s'écria Madame Pigeonneau. « Mais où irons-nous » « Rassurez-vous, madame, » fit Monsieur Houblon avec fermeté. « Il passera encore d'ici là de l'eau sous les ponts, et le parti des honnêtes gens n'a pas dit son dernier mot. » « Que comptez-vous donc faire ? » demanda M. Daubrebis. « D'abord, nous organiser. »« Oh, oh, mais cela sent la guerre civile ?»« Pourquoi pas ?» fit M. Houblon en se redressant de toute sa taille. On admira beaucoup sa décision et sa hardiesse. Mademoiselle Cloque, assise sur une chaise qu'on s'était empressée de lui offrir, applaudit en criant « Bravo, cher monsieur, bravo !» Ce « pourquoi pas ?» était encore un mot qui resterait. Cependant, allait répliquer M. Daubrebis. Mais on lui ferma la bouche de 10 côtés à la fois. D'abord, il n'était qu'un parpaillot, il n'avait pas voix au chapitre. Pouvait-on nier qu'il y eut des guerres saintes ? On cita les croisades. Le mot de Dieu des armées fut prononcé. Le marquis était tout petit vis-à-vis de M. Houblon. Il avait la figure rasée, mobile, expressive. Il faisait peu de gestes, parlait sans passion et n'élevait presque pas la voix. Il semblait que son adversaire, pareil à un Don Quichotte et qui ne remuait pas un membre sans avoir l'air d'agiter des ailes de moulin à vent, l'assomma. « Permettez, insista M. Daubrebis, c'est entre chrétiens que vous rêvez de vous exterminer et mon modeste rôle ne saurait consister qu'à marquer les points. Puis-je, en simple curieux, vous interroger sur les forces respectives des deux camps ?» « Peu importe, dit M. Houblon, nous combattons pour la justice. Dieu et Saint-Martin sont avec nous. » « Seront-ils contre l'archevêque ?» Le débat allait s'échauffant et pouvait donner de l'inquiétude lorsqu'entrèrent Mademoiselle Jouffroy qui s'était attardée à converser avec le frère Bleu. Les premiers mots qu'elle prononcèrent causèrent un si grand étonnement que le ton de la discussion, devenu général, baissa d'un coup. Elles apportaient un air résigné qui contrastait singulièrement avec leur attitude provocante de la veille. « Après tout !» dirent-elles, et sur le ton particulier qui promet toutes les concessions. « Comment, après tout ?» leur fut-il vertement répliqué. « Il n'y a pas d'après tout. C'est tout l'un ou tout l'autre. N'est-il pas vrai, mesdames ? C'est l'Église digne de Dieu et du Saint-Ovaturge ou c'est la maçonnerie des conseillers municipaux ? Est-ce que ces demoiselles nous apporteraient un projet intermédiaire ?» Ce disant, M. Houblon ploya sa taille flexible en une sorte de point d'interrogation dont l'impertinence provoqua un mouvement approbatif. Ces demoiselles se retranchèrent aussitôt derrière leurs autorités. « Le frère Gédéon, dirent-elles, vient de nous parler d'une façon, ma foi, fort sage. » « Le frère Gédéon ? » interrompit Mademoiselle Cloque. « Mais, mes bonnes amies, nous venons de le quitter, M. Houblon et moi. Est-ce qu'il serait plus sage qu'il y a un quart d'heure ?»« Toujours est-il, ma chère amie, que nous n'avons point entendu jusqu'ici de paroles si sensées, si mesurées, n'est-ce pas, Hortense ?»« Ah ça, mais de quoi se mêle-t-il, le frère Gédéon ? Il ne nous a jamais donné son avis sur ces histoires. » Le frère Gédéon, insinua finement M. Daubrebis, est un garçon d'une excessive prudence. Il trie son grain et le sème selon la convenance des terrains. « Que voulez-vous dire ? » fit l'une des demoiselles Jouffroy. « Rien du tout, mademoiselle. Continuez donc votre récit. » Le frère Gédéon nous disait tout simplement que c'était sur l'avis formel du pape que Monseigneur l'archevêque avait penché vers l'adoption du projet. On s'exclama à nouveau. « L'avis formel du pape ? Ah, par exemple, on ne s'attendait pas à celle-là. L'avis formel du pape. Mais qu'est-ce qu'il en savait, le frère Gédéon ? Est-ce que c'était à lui que Monseigneur Fripière était venu raconter ses entretiens avec sa sainteté ? Ne dirait-on pas en vérité que le frère Gédéon est à tu et à toi avec l'archevêque? N'allait-on pas aussi bientôt apprendre qu'il mangeait à sa table?
S'il ne mange pas à sa table, opina Madame Chevillé, tenez compte qu'il est du dernier bien avec des personnes qui ne se font pas faute d'y manger.
Tout le monde comprit l'allusion au comte de Grenaille-Moncontour. Le déjeuner de la veille à l'archevêché, le départ en landau avec l'abbé Janvier, avait fait assez de bruit. Par égard pour Mademoiselle Cloque, on ne la releva point, mais la pauvre fille sentit le poids de ce silence intentionnel et reçut une première fois, d'une manière positive, la sensation du grand malheur qui la frappait, elle et sa nièce. On comprenait qu'il ne fallait plus prononcer devant elle le nom du comte de Grenaille. Mais M. Houblon, fouetté par le sentiment du danger, s'exalta, pérora, pesta, invoqua tous les saints du paradis, électrisa son auditoire, l'étourdit, le tint comme fasciné sous l'éclat de son éloquence. Ah, il avait de quoi foudroyer le frère Gédéon. Il eût retourné bout pour bout la vie du pape. Tout au moins, durant le temps qu'ils parlaient, Mademoiselle Jouffroy recouvrèrent leur première opinion. Il était magnifique. On eût dit qu'il tenait les grandes orgues. Il fit tant de bruit que le libraire Pigeonneau ouvrit la petite porte de son atelier de reliure et parut, en longue blouse blanche, l'air effrayé derrière ses lunettes de travailleur modeste. Pigeonneau était un homme timide et calme qui se montrait rarement et passait pour un niais à côté du brillant de sa femme. Cette apparition et cette figure effarée donnèrent à comprendre à quel point l'air était ébranlé. Ce fut comme le signe tangible de la période de trouble qui s'ouvrait. Assurément, il n'y avait là que le marquis d'Aubrebis qui ne trembla point. Il dit sur un ton plaisant qui fit l'effet d'un jet d'eau froide sur toutes les cervelles flambantes. « Eh bien, monsieur Pigeonneau, vous voilà encore là au lieu de préparer vos paquets. Il paraît qu'on vous fait déménager. » « Déménager ?» dit Pigeonneau complètement ahuri.
« Ces messieurs prétendent, lui dit sa femme, que l'on va commencer les travaux de Saint-Martin. »«
Ah ? » fit Pigeonneau. On crut qu'il allait ajouter une réflexion appropriée au sujet, mais il dit simplement, en homme qui n'a pas de temps à perdre, et du côté de sa femme, « Dis donc, ma bonne, as-tu prévenu, monsieur le proviseur, que ces volumes seront prêts pour les 4 heures ?»«
Oui, oui !» dit Madame Pigeonneau, qui se hâta de baisser la tête en inscrivant des chiffres sur une facture.
Mais quelques fines mouches s'étaient aperçues qu'elle avait rougi légèrement à cause de l'impair que venait de commettre son mari, en risquant une allusion à l'établissement de l'État.
« Comment ?» dit une dame pincée qui venait d'entrer. « Vous fournissez le lycée à présent ?»
Cette phrase amère était prononcée par Madame Bézu, personne importante et qui avait été candidate à la présidence de l'ouvroir en même temps que Mademoiselle Cloque. On la soupçonnait de jalousie.
Oh ! Se hâta de répondre Madame Pigeonneau sans redresser encore la tête.
Ce n'est rien, de simples impressions en or sur volume de prix. Vous savez, 2 petites branches de laurier et en dessous, offert par le Conseil général. Il n'y a que mon mari qui fasse ici ce genre de travail, vous comprenez. On ne peut pas refuser.
Et comme ce petit incident était suivi d'un silence, Madame Pigeonneau ajouta ingénument
« Encore pour les branches de laurier, leur avons-nous mis celles qui nous servent pour les révérends pères jésuites ?»«
Madame Pigeonneau, s'écria le marquis, après cette réflexion charmante, vous êtes adorable et Pigeonneau est le plus heureux des hommes. »
Cela fit rougir encore Madame Pigeonneau, toute courbée sur le pupitre de la caisse, au point qu'on ne voyait d'elle que ses beaux cheveux, le bout de son nez et sa gorge bien serrée qui caressaient les feuilles commerciales. Mais le libraire, n'entendant point les allusions spirituelles, rentra à la reliure sans faire attention à ce que l'on disait et rassuré quant à lui du moment qu'on ne se battait pas.
« Prenez garde, ma belle petite, reprit Madame Bézu. C'est par des inconséquences de cette sorte que l'on perd sa maison. » On ne peut pas servir à la fois Dieu et le diable, fût-on aidé dans cette besogne par tous les beaux esprits de la ville. »
Le marquis répondit d'un sourire gracieux à l'inclinaison de tête qui avait accompagné ce trait à son adresse.
« Les affaires sont les affaires, » hasarda quelqu'un.
« Hélas, madame, on ne le voit que trop.
dit Madame Bézu, dont les yeux brillaient comme si elle avait une révélation à produire. Et il y a mieux à dire, c'est que tout devient affaire par le temps qui court. Voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée? Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, je ne serai pas éloigné de croire que ce sont des hommes d'affaires qui mènent en ce moment-ci la barque de Saint-Martin. Oh! Il y a trop d'argent à remuer pour que quelque bon financier ne se soit pas trouvé là et n'ait pas imposé adroitement sa volonté. Ces paroles firent naître un nouvel embarras chez les personnes qui voulaient éviter que l'on parlât de cette question en présence de Mademoiselle Cloc. Quelques-unes, gênées, se retirèrent. Les autres souhaitaient que M. Houblon reprît la parole. Au moins, celui-ci n'était pas compromettant. On sentait qu'il disait toujours des choses excellentes, quoiqu'on ne se souvînt jamais de ce qu'il avait dit. M. Houblon était soufflant encore, non pas épuisé toutefois, et visiblement prêt à recommencer au moindre signe, tant sa bonne volonté était grande. Mademoiselle Cloque lui évita cette peine. L'âme de la malheureuse souffrait toutes les angoisses. Elle comprenait les réticences généreuses de ses amis, sans en pressentir encore complètement le sens. Elle résolut, en rassemblant son courage, d'aborder carrément la question. Ses membres tremblaient. Il lui semblait qu'elle tint sur les genoux sa chère petite Geneviève et qu'elle l'étouffa comme un pauvre pigeon. Elle la revoyait, hier encore, la tête sur son épaule, lui faisant son joli aveu d'amour et de confiance en le jeune homme dont elle allait elle-même placer le père sur le banc des accusés. Elle avait fait signe qu'elle voulait parler, ce qui avait rendu attentif autour d'elle, car elle était ordinairement comme un oracle pour toutes ces dames. Et l'émotion lui coupait la voix. Enfin, elle dit « Il faut savoir tout sacrifier quand les grands intérêts de la religion sont en jeu. Je ne voudrais pas que l'on s'interdit de rechercher la lumière qui peut être très cruelle pour nous, mais qui peut aussi innocenter ceux qui souffrent de nos soupçons. » Cinq ou six dames qui parurent lancées par un ressort sautèrent confusément dans la brèche qu'ouvrait Mademoiselle Cloque. Ma bonne amie, croyez qu'il est aussi douloureux pour notre cœur que pour le vôtre de nous voir contraintes à juger sévèrement la conduite de personnes ?»« Ah ça !» s'écria M. Houblon. « Qu'est-ce que c'est que tout cela? De qui voulez-vous donc parler ?»« Comment ?» objecta quelqu'un. « Vous ne savez rien? D'où sortez-vous ?» Immédiatement, les demoiselles Jouffroy se ressaisirent. « Vous nous parlez depuis une heure. Vous nous dites des choses ?» On ne sait plus où en donner de la tête, et au fond, vous n'êtes pas du tout informé. J'avoue, balbutia M. Houblon, que ce mystère... Allons, taisez-vous donc, dit vivement Mademoiselle Jouffroy, la cadette. Ce n'est pas la peine de faire des embarras quand on en est à l'ABC. Si vous voulez nous permettre de prendre l'histoire à beau veau, nous ne serons pas en peine de vous prouver avec le frère Gédéon... « Pardon, mademoiselle, » dit Madame Bézu, qui avait allumé la mèche et qui tenait absolument à mettre le feu aux poudres. « Si bien informée que vous soyez par le frère Gédéon, je doute que ce soit l'ancien protégé de la famille Niorcan qui ait pris soin de vous éclairer sur la seule question qui nous intéresse en ce moment, à savoir s'il y a quelqu'un qui ait été en mesure de mener en sous-ordre l'affaire de la construction de Saint-Martin. Et, au cas où quelqu'un aurait été en mesure de le faire, qui est le personnage ?» Or, nous nous trouvons aujourd'hui en présence de deux faits. Primo, la vente des maisons dites de l'œuvre de Saint-Martin à une société financière. Secondo, la présence, non officielle bien entendu, mais effective et constatée à la tête de ladite société, d'une personne dont j'ai déjà prononcé le nom. Monsieur Niorcan, acheva elle-même Mademoiselle Cloque. Et elle fit un suprême effort pour supporter cette terrible nouvelle qui dépassait ses appréhensions. « Vous l'avez dit, ma chère !» fit l'ancienne candidate à l'ouvroir en se rengorgeant. « Comment » fit-on de tous côtés. « C'est Niorcan qui est à la tête de la société ?»« Ce monsieur Niorcan n'est-il pas israélite ?» demanda M. Houblon. « Ça se sent assez !» fit Madame Bézu. « Il est vrai ?» ajouta-t-elle, pour ceux qui pouvaient avoir oublié son union intime avec les Grenailles Moncontour, « il est vrai qu'il a marié sa fille dans une maison si catholique. » Mais, observa Mademoiselle Cloque, qui n'avait pas perdu la tête, « qu'est-ce que cela prouve? Il fallait bien vendre ses maisons à une société quelconque si l'on était résolu à ne pas en user, et la présence de M. Nurkan dans cette société ne signifie pas...
Comment ne signifie pas? Mais c'est un juif, ma chère amie. Faut-il vous répéter que c'est un juif?
Tout le monde sait qu'il est fort riche, riche à entretenir plusieurs familles.
Ceci était d'une perfidie atroce.
Et l'on connaît l'influence dont il dispose. Et vous voudriez nous faire croire qu'il n'a pas usé de son ascendant pour faire échouer un grand projet religieux?
Son ascendant? Son ascendant sur le monde des libres penseurs, je vous le concède. Mais il s'agissait là d'un projet intéressant surtout les autorités ecclésiastiques.
Et c'est vous, ma chère amie, vous qui avez mis hier en voiture M. le comte de Grenaille-Montcontour avec M. le vicaire général, qui allez nous dire que M. Nurkan n'a pas dans son entourage de quoi peser sur les autorités ecclésiastiques?
Ah non, je ne reconnais plus vos lumières. Perdrions-nous nos facultés, ma bonne?
Serions-nous décidément, nous aussi, en décadence? Qui ne sait deviner ne sait point gouverner.
Madame Bézu se vengeait en torturant sa concurrente à la présidence de l'ouvroir dans le présent et en essayant de la compromettre dans l'avenir. Mademoiselle Cloque avait trop de chagrin pour comprendre autre chose que la gravité de la nouvelle.